Radio Campus Tour, bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez La Méridienne et mon invité aujourd'hui c'est Laurence Tacona. Bonjour Laurence Tacona.
Bonjour.
Alors Laurence Tacona, vous êtes professeure des universités à l'université de Tours et directrice adjointe du CERCA. Et si j'ai le plaisir de vous inviter aujourd'hui, c'est parce que vous animerez bientôt le mardi 11 février une conférence dans le cadre des Mardis de la Science portée par Centre Sciences. Conférence qui portera sur maintenir sa mémoire tout au long de la vie. Avant d'en parler, je vous propose, Laurence Tacona et chers auditeurs, d'écouter une carte postale sonore qui nous arrive du Togo. Nous allons écouter la carte postale sonore d'Aristide. On se retrouve tout de suite après dans La Méridienne.
Bonjour, je suis Aristide Oniglo, journaliste et blogueur à Lomé, la capitale du Togo. Toujours à la découverte du paysage sonore togolais, je vous emmène cette fois-ci au cœur d'une machine très importante pour les Loméens, le moulin à grains. C'est un son particulier, strident, que l'on perçoit dans tous les quartiers de la ville. Sans le moulin, il n'y a tout simplement pas à manger. Il sert donc à moudre les céréales comme le maïs, le mil, les féculents, igname et manioc ou même de la tomate, des ingrédients qui sont à la base de l'alimentation de la population ici. Généralement installés dans un petit local au coin de la rue, les moulins sont tenus par les motito, c'est-à-dire les meuniers en langue évée locale. J'ai donc rendu visite il y a quelques jours à l'un d'eux qui m'a présenté sa bruyante machine, le fameux moulin à grains. C'est un ensemble composé d'une machine de fabrication indienne qui renferme à l'intérieur des dents pour broyer les céréales, juste à poser au moulin un moteur de 10 chevaux qui fait tourner le mécanisme de broyage par une longue bande en caoutchouc. Et c'est grâce au moulin que l'on obtient la farine de maïs servant à préparer une multitude d'aliments et de mets parmi lesquels le fameux akuma, le comme, la blo, la con, les glins, mais aussi des boissons, des bières, des bouillies, des galettes, des gâteaux, bref, toutes sortes de mets aussi délicieux les uns que les autres dans la cuisine togolaise.
Merci à Aristide qui nous a envoyé une carte postale sonore depuis le Togo. Je me tourne vers vous, Laurence Tacona. Merci d'être avec nous dans cette méridienne. Alors, vous êtes professeur des universités à l'université de Tours et vous êtes responsable du master de recherche neurosciences cognition psychologie. Est-ce que vous voulez dire à nos auditeurs étudiants en quoi consiste ce master ?
Je ne suis plus responsable depuis l'année dernière de ce master.
Le site n'est pas à jour.
Non, c'est ma collègue Lucie Angèle maintenant qui prend la co-responsabilité avec Samuel Le Mans de la Fac des Sciences. Et donc c'est un master qui est destiné plutôt à la recherche, donc un master de cognition, neurosciences et psychologie, donc où on reçoit des étudiants issus de différents parcours en biologie, psychologie, linguistique et également des médecins. Et ce diplôme peut permettre une entrée en troisième cycle, donc en thèse, de neurosciences ou de psychologie.
Donc on voit que là, pour ce diplôme, ce master de recherche, il n'y a pas uniquement des profils purement scientifiques ?
Si, quand même scientifique, avec des sciences plus ou moins connues pour être des sciences plus ou moins dures, avec la linguistique et la psychologie, qui sont quand même aussi des sciences.
Bien sûr.
Voilà, et qui donc on reçoit aussi des étudiants issus de ces parcours.
Voilà, donc évidemment, on parle bien de science, mais l'idée c'était de dire que ce n'est pas réservé aux seuls médecins, aux seuls étudiants, je pense, des sites Grammont peut-être.
Voilà, c'est ça mon idée. Tanner et Grammont et la fac de médecine aussi.
Alors cette diversité des profils, en fait, comment ça sert en fait ce master et ça débouche vers quel métier ?
Alors principalement, la principale vocation donc de ces étudiants, c'est de faire un troisième cycle, de faire une thèse, pour ensuite essayer d'avoir un emploi en lien avec ce doctorat, donc en tant qu'enseignant-chercheur ou chercheur. Les étudiants peuvent aussi postuler sur des postes d'ingénieurs de recherche, par exemple, dans les universités. Voilà, donc la thèse pourra être en fait être menée en psychologie ou en neurosciences essentiellement.
Voilà, est-ce qu'on peut être docteur en psychologie ? Puisque je pense qu'il y a peut-être des personnes qui ne le savent pas, qu'en fait on peut tout à fait être docteur en plein de choses et pas qu'en médecine.
Bien sûr, le doctorat c'est un diplôme de troisième cycle qui peut se faire aussi bien en lettres, en langues, en philosophie, en psychologie, en médecine. C'est pas la même thèse, hein. En médecine on a une thèse plus pratique, hein, une thèse d'exercice, alors que les thèses qui sont faites en psychologie, biologie, etc., sont des thèses de troisième cycle qui sont donc destinées ensuite aux personnes qui veulent postuler sur des emplois de maître de conférence, par exemple, ou de chercheur. Pour postuler sur ce genre de poste, il faut avoir un doctorat et ensuite passer des concours. Donc soit pour être maître de conférence, auquel cas il faut d'abord être inscrit sur une liste de qualifications nationales, ou alors passer des concours de chercheur. Et généralement, entre la fin de la thèse et la candidature à des postes de maître de conférence ou de chercheur, il faut faire une, deux ou trois ou plus d'années de post-doc. Donc on arrive en fait souvent assez tard sur ces métiers de chercheur ou de maître de conférence.
Voilà, mais ne vous découragez pas, chers auditeurs, si vous aspirez à ce genre de parcours, parce que on imagine bien quand même que même si c'est on s'engage sur des années, sur 10 ans peut-être quand on aspire.
C'est ça.
Voilà. Donc
10 ans après le bac.
Faut le savoir
dès le
départ. Est-ce qu'il y a ça, comment dire, est-ce que cette envie de poursuivre un parcours comme ça, vous avez pu observer chez vos étudiants, est-ce qu'elle est d'emblée là ou est-ce qu'elle elle s'affine au fil du cursus ?
Elle s'affine au fil du cursus. C'est plutôt assez rare qu'on veuille aller jusqu'au doctorat quand on rentre en première année parce que le parcours est long. Ça peut paraître un peu compliqué. En général, ça s'affine au moment du master. Alors maintenant, la particularité, en tout cas dans notre domaine en psychologie et à Tours, mais plus récemment en psychologie à Tours, les étudiants sont sélectionnés à la fin de la troisième année de licence pour rentrer dans un master. Et donc, à la fin de la licence 3, ils doivent déjà choisir le master qu'ils veulent faire, et donc ils peuvent choisir de rentrer en master CNP, cognition neurosciences psychologie, s'ils le souhaitent. Cela dit, je voudrais quand même préciser que les étudiants qui font faire un master professionnel, enfin ce qu'on appelait avant professionnel, maintenant normalement on ne fait plus vraiment la distinction entre les deux, pourront quand même faire une thèse s'ils le souhaitent. En fait, on peut entrer en thèse avec n'importe quel master, théoriquement.
Théoriquement. Mais, comment dire, alors là, vous avez prononcé un mot qui sûrement fâche un peu, sélection à l'entrée en master. Alors, C'est un choix raisonné, je suppose. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux personnes qui pourraient s'offusquer qu'il y ait une sélection?
Je pense pas qu'on puisse trop s'offusquer là-dessus. Avant, l'entrée et la sélection se faisait à l'entrée du Master 2. C'est-à-dire qu'il y avait des étudiants qui faisaient leur année ou leurs deux années de Master 1, parce que certains étudiants le font en deux ans s'ils travaillent à côté, etc. Et parfois, n'étaient pas sélectionnés en Master 2, donc ils avaient fait un Master 1, un peu pour rien, sachant que le Master 1 ne donne pas vraiment accès à quelque chose de particulier, en plus de la L3, c'est pas professionnalisant. Voilà, après, ça permet un peu de réduire un petit peu les effectifs en Master 1, et ça permet peut-être aux étudiants de faire leurs études dans de meilleures conditions, ils sont moins nombreux.
Et alors, pourquoi cet engouement pour le master de psychologie?
Alors là, c'est parce que ce sont des études extrêmement intéressantes, je suppose. Effectivement, on a vraiment énormément d'étudiants, hein, autour de 650 qui arrivent en première année, donc beaucoup d'étudiants en L3, et ensuite encore beaucoup de personnes qui postulent à l'entrée des masters. Là encore, ça dépend vraiment de la spécialité, puisque par exemple dans le master de psychologie clinique et pathologique, on a vraiment énormément de candidatures pour être donc psychologue clinicien, alors qu'en psychologie du travail et des organisations, ou en psychologie gérontologique, on a beaucoup moins de candidats, alors qu'on trouve du travail dans ces domaines. Et pour le master CNP, on a encore moins de candidats. Moins de candidats souhaitent effectivement s'engager dans une thèse, par exemple.
Voilà, mais si le souhait d'un étudiant, c'est d'être psychologue, c'est master 2.
Alors, entrer dans un master, donc à Tours, on a quatre spécialités professionnelles, donc psychologie clinique et pathologique. Psychologie, gérontologie normale et pathologique, psychologie de l'enfant et psychologie du travail et des organisations, je crois que je n'en oublie pas. Et là, on a effectivement, on forme un peu plus de 100 psychologues par an, ici, à Tours.
Ça vous situe comment par rapport à une échelle nationale ?
Je n'ai pas fait les calculs, mais je pense qu'on est à peu près dans la moyenne. En tout cas, dans la région, je parle pas de région administrative ou quoi. On forme aussi des psychologues pas loin d'ici à Poitiers, pas loin d'ici à Angers, pas loin d'ici beaucoup à Paris. Donc on forme énormément de psychologues. Il y a encore un petit peu de possibilité quand même d'avoir un poste pour ces étudiants qui s'engagent dans des études de psychologie.
Alors juste un mot à nouveau sur la thèse, parce que si le site mensonger où je suis allée, que je ne citerai pas, où j'ai trouvé que vous étiez responsable de ce master, mentionne aussi encadrement doctoral. Donc là on voit que vous suivez des doctorants, et ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a différentes façons d'être doctorant. Donc on voit par exemple allocataire avec contrat d'enseignement, là autofinancement, et puis financement ANR. Alors, est-ce que vous voulez juste dire un mot sur ces...
Je vais vous dire. Donc, on a... alors, particulièrement dans mon laboratoire, donc le CERCA, on est dans une école doctorale sciences, et dans cette école doctorale, on ne peut prendre que des étudiants financés. Parce que c'est dans cette école doctorale, hein, mais c'est le cas aussi des autres, mais là, très fortement, ils nous incitent à ne prendre que des... Enfin, ils nous obligent même à ne prendre que des étudiants financés, de façon à ce que les étudiants puissent faire leur thèse dans de bonnes conditions, et puissent faire une thèse qui, dans la mesure du possible, hein, ne dépasse pas trop les 3 années officielle dans laquelle on fait une thèse. Quand ce sont des étudiants qui travaillent à côté, par exemple c'est le cas des étudiants autofinancés, ils ont droit à 6 inscriptions. Donc ils peuvent doubler leur temps de thèse, même si dans l'école doctorale on n'aime pas trop que les thèses durent trop. Donc un étudiant autofinancé, c'est un étudiant qui a un travail à côté. Ce travail doit avoir un lien avec son travail de thèse. Et donc il travaille sur sa thèse à temps partiel, si je puis dire, puisqu'il travaille justement à côté. Les étudiants financés avec contrat d'enseignement sont des étudiants qui ont, le cas le plus fréquent sont les bourses ministérielles, donc qui financent un étudiant pendant les 3 années de sa thèse. Et parallèlement à ça, il peut faire des cours à l'université, des TD, voilà, plutôt des travaux dirigés, ce qui lui permet, ça fait un complément de financement. Et en plus, ça le forme à l'enseignement, puisque ces étudiants, généralement, enfin pour la plupart en tout cas, se destinent à être maître de conférence, donc enseignant, enseignant-chercheur, un maître de conférence et enseignant-chercheur. Donc voilà, ils peuvent déjà commencer à donner des cours. Et d'ailleurs, pour être qualifiés au niveau national, ils doivent justifier d'un certain nombre d'heures de cours qu'ils auront fait pendant leur doctorat. Et ensuite, le financement ANR, donc l'ANR c'est l'Agence Nationale de Recherche, donc qui finance les recherches sur réponse à appel d'offres. Donc là c'est nous qui concourons sur ces appels d'offres, et quand on a la chance de décrocher un financement par l'Agence Nationale de la Recherche, ce qu'on appelle le financement ANR, eh bien on peut financer notre recherche et on peut répartir l'argent un peu comme on le souhaite, ou en tout cas de toute façon c'est prévu quand on dépose la réponse à l'appel d'offres. Et il se trouve qu'effectivement on peut demander dans le budget le financement d'un doctorant. Donc là, on aura aussi un doctorant financé pendant 3 ans. Il m'est arrivé aussi de financer une thèse, par exemple, à temps partiel pour une doctorante à l'époque qui avait un travail à l'extérieur. Donc ça lui faisait un demi-financement et elle avait un complément de financement grâce à l'ANR.
Alors quand même, pour ce qu'on se rende compte, pardon d'être aussi terre à terre, mais un financement accordé pour un doctorant, ça fait un revenu mensuel d'à peu près combien ?
Aux environs de 1500 euros par mois. Ils ont un contrat de recherche, donc c'est un contrat, ça s'appelle un contrat doctoral. Donc ils ont un contrat avec l'université qu'ils doivent bien sûr remplir, et ce contrat c'est de faire une thèse, donc de travailler, de faire de la recherche dans un laboratoire, de publier les résultats et de soutenir une thèse.
Et comment ça se passe alors ? Est-ce qu'on a des étudiants en fin de master 2 par exemple qui viennent en disant « moi je voudrais faire une thèse sur ce sujet-là » ou est-ce que vous avez déjà des orientations de dire « ce serait bien qu'on ait quelqu'un qui avance un projet commun dans cette direction, on aurait besoin d'un doctorant » Comment ça...
C'est un peu plus compliqué que ça en réalité, mais nous-mêmes, donc lorsqu'on dirige des recherches, lorsqu'on peut diriger des thèses, on peut proposer un sujet de thèse qui va être financé ou pas. Donc ça, c'est par le biais de l'école doctorale où tous les ans on va sélectionner les sujets qui vont être financés. Et lorsqu'on a un sujet financé, on va déposer le sujet, on va le publier en fait, de façon à ce que des personnes au niveau national, voire international, puissent postuler sur ce sujet de thèse. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas directement la personne qui va bénéficier du financement. On le choisit un petit peu, mais pas à 100%, puisqu'on doit obligatoirement convoquer 3 personnes qui vont éventuellement postuler sur ces sujets de thèse et qui vont venir passer une audition devant l'école doctorale. Donc plusieurs personnes de l'école doctorale qui vont siéger dans cette commission, qui vont entendre les candidats parler du sujet sur lequel ils postulent. Et en fait, c'est l'école doctorale qui va choisir le candidat. L'encadrant, le directeur de thèse a un petit mot à dire, mais il faut que c'est l'école doctorale qui recrute en fait. Au contraire, lorsqu'on a un financement ANR, étant donné qu'on a soi-même obtenu le financement, on a un droit de regard un petit peu plus privilégié pour le recrutement du candidat.
Voilà, et bien merci pour ces précisions, Laurence Tacona, sur la thèse et le master, dans lequel vous intervenez toujours, je pense, quand même.
Oui. Juste, je n'en suis plus responsable en fait depuis que je suis directrice adjointe du laboratoire. Ça fait beaucoup de choses à gérer après. Voilà.
Voilà. Eh bien, justement, je propose que l'on parle plus précisément du CERCA après une première pause musicale et nous allons écouter un peu de jazz. Nous allons écouter Alexandra Grimal et on se retrouve tout de suite après dans la Méridienne. Laura Grimal sur Radio Campus Tours et je suis toujours en studio avec Laurence Tacona. Alors, Laurence Tacona, vous êtes co-directrice, n'est-ce pas, du CERCA, le Centre de Recherche sur la Cognition et l'Apprentissage. Est-ce que vous voulez nous expliquer ce qu'est le CERCA ?
Alors, le CERCA, donc, c'est une UMR, ce qu'on appelle une unité mixte de recherche, puisque c'est à la fois universitaire et CNRS. Donc, nos tutelles, hein, sont l'université et le CNRS. Et pour le CERCA, donc c'est un laboratoire bisite, puisqu'on a une partie, même la plus grosse partie à Poitiers, et une partie à Tours. Donc on a trois tutelles, l'Université de Poitiers, Université de Tours et CNRS. Donc c'est un laboratoire qui s'intéresse à la psychologie cognitive. Donc dans ce laboratoire, tout le monde fait de la psychologie cognitive.
C'est quoi la psychologie cognitive? Pour les gens qui prendraient cette émission en cours de route.
En cours de route. Donc la psychologie cognitive, c'est la psychologie qui s'intéresse à la façon dont on acquiert et on transmet des connaissances. Donc ça peut être par exemple la perception, la mémoire, l'attention, le langage. Donc dans notre laboratoire, on s'intéresse essentiellement au langage. Hein, donc deux équipes importantes à Poitiers s'intéressent au langage. On s'intéresse à la mémoire, donc ça c'est essentiellement la partie tourangelle, mais pas uniquement. Et puis on s'intéresse également à la motricité. Donc on a une équipe où il n'y a pas de psychologue, mais ce sont des collègues de STAPS, donc les sciences qui s'occupent des activités motrices et physiques, quoi. Et donc motricité et cognition. Et puis nous avons des collègues qui s'intéressent également aux interactions sociales en lien avec la cognition. Donc c'est assez varié, on est 6 équipes, et puis j'ai oublié une équipe donc qui s'intéresse aux pathologies, aux liens entre pathologie et cognition, et notamment aux pathologies liées au vieillissement, mais pas uniquement.
Alors peut-être préciser, je pense que ce n'est pas l'équipe à laquelle vous appartenez, mais le rapport entre la motricité et la cognition.
Alors, il y a dans cette équipe qui s'appelle Execo, dans cette équipe Execo, on a deux grands axes de recherche. En fait, certains collègues s'intéressent au lien entre la pratique d'activité physique et la cognition, notamment dans le vieillissement, puisque la pratique d'activité physique va favoriser ce qu'on appelle le bien vieillir. Hein. Les personnes vont être en meilleure forme, je parle toujours au niveau cognitif, hein, lorsqu'elles pratiquent des activités physiques. Et puis, une autre partie de l'équipe s'intéresse aux modifications, aux liens entre motricité et cognition, et notamment modifications cérébrales et cognitives, par exemple suite à une immobilisation d'un membre, par exemple quand une collègue par exemple qui s'appelle Lucette Toussaint s'intéresse aux effets de l'immobilisation d'un membre supérieur, d'un bras en fait, sur notre capacité ensuite à nous représenter le monde, si je ne vais pas dans les détails.
C'est-à-dire qu'il y a peut-être aussi une empreinte sur le cerveau, par exemple.
Une empreinte sur le cerveau, tout à fait. Et on co-dirige avec cette collègue, on co-dirige une thèse qui se situe dans le domaine de ce qu'on appelle la cognition incarnée. Donc la cognition incarnée, c'est le fait que on suppose que notre façon de traiter les informations, donc notre cognition, est directement sous-tendue par notre corps, et que c'est la façon dont on va agir sur notre environnement qui va nous permettre de traiter les informations d'une façon ou d'une autre.
Mais est-ce que ça a un rapport quelconque avec, par exemple, la mémoire visuelle, la mémoire auditive, c'est-à-dire que l'apprentissage est incarné, est-ce que ça a un lien quelconque?
C'est pas exactement de cette façon, c'est plutôt le fait que si je m'imagine par exemple prendre une tasse, eh bien je vais avoir une partie de mon cortex moteur qui va peut-être s'activer, parce que si je m'imagine prendre une tasse, eh bien j'ai besoin de ma main, de mes doigts, de faire tel et tel geste, et donc je vais avoir aussi mon cerveau moteur qui va rentrer en action.
Et donc là, par exemple, est-ce que ça peut permettre de comprendre pourquoi les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ne savent plus faire certains gestes? Par exemple, elles sont assises à table, Il y a manger et découvert, mais donc elles savent manger, mais le...
C'est pas exactement la même problématique. Les personnes qui, par exemple, Alzheimer ou dans d'autres types de démence, si elles voient découvert et qu'elles ne savent plus à quoi ça sert, c'est plutôt ce qu'on appelle des apraxies. Elles ne savent plus à quoi servent telle et telle chose. C'est un petit peu différent.
C'est bien, on précise par le nom. comment dire, vous êtes plutôt dans le pôle Vimeux, je crois. Je
sais pas comment. Donc vieillissement et mémoire, vieillissement et mémoire. Voilà. Abrégé de vieillissement et mémoire.
Est-ce que vous voulez préciser justement, alors là vous êtes dans le CERCA, dans le pôle dysfonctionnement de la mémoire et précisément dans l'équipe Vimeux. Est-ce que vous voulez expliquer?
Donc l'équipe VIM, c'est une équipe de recherche donc, qui appartient au CERCA, c'est la seule équipe Tourangelle et nous nous intéressons aux effets du vieillissement normal sur la mémoire. J'insiste sur le normal parce que même si on peut le prendre parfois en considération, on ne travaille pas sur les pathologies par exemple du type Alzheimer. C'est vraiment les effets du vieillissement normal sur la mémoire et la façon dont on peut éventuellement réduire les effets du vieillissement sur la mémoire. Et on s'intéresse aussi aux facteurs qui risquent d'accroître les effets du vieillissement sur la mémoire.
Alors ça, par exemple, comment on mesure ces choses-là? C'est-à-dire que vous avez, par exemple, un groupe test de personnes âgées d'un certain âge
qui... Oui, tout à fait. Alors, quand on s'intéresse aux effets du vieillissement, en fait, ça nécessite de comparer des personnes jeunes et des personnes âgées à qui on va faire passer certaines tâches de mémoire. Voilà, on a toujours des groupes hein, et on va faire des tests de mémoire et on va regarder les différences qui existent entre les performances moyennes d'adultes jeunes et les performances moyennes d'adultes plus âgés. Donc on fait des statistiques, beaucoup de statistiques.
Et alors quand on parle de vieillissement, ça, à partir de quel âge on entre dans le vieillissement? Parce que ça c'est un éternel débat.
Oui, c'est un éternel débat et je ne pourrais pas répondre exactement à cette question là aujourd'hui. Mais approximativement, nous testons des personnes à partir de 60 ans et maintenant plutôt même 65 ans. Parce que, je pense que ça peut être une des bonnes nouvelles, c'est que très souvent, finalement, des personnes de 60 ans ne présenteront pas de différence avec des personnes plus jeunes, ou pas de différence suffisamment importante, en tout cas. Donc on a tendance maintenant à solliciter des personnes de plus de 65 ans, mais on en sollicite encore à partir de 60 ans.
Alors, c'est dû à quoi cette non-différence manifeste? C'est parce que les personnes qui ont 60 ans ont, comment dire, suffisamment d'acquis, les choses en stock?
Alors, ce que je dis là, ça n'est pas quelque chose qui a été, pour le moment, en tout cas, démontré scientifiquement. C'est surtout une observation qu'on a pu faire et que j'ai faite aussi, puisque ça fait quand même longtemps maintenant, j'ai soutenu ma thèse il y a presque 25 ans, donc ça fait longtemps que je m'intéresse au vieillissement. Et les personnes que moi je sollicitais, que j'ai testées pendant ma thèse ou même avant, parce que j'ai commencé à travailler dans ce domaine avant ma thèse aussi, ces personnes étaient moins performantes que celles qu'on voit maintenant, un petit peu. Alors, est-ce que c'est parce que ça n'était pas les mêmes échantillons, ou est-ce qu'il y a vraiment un effet de cohorte, où les personnes maintenant manifestent des effets du vieillissement plus tard? Pour l'instant, je ne pourrais pas le dire. Mais il se trouve quand même que un des facteurs hein, de réserve, ce qu'on appelle les facteurs de réserve, ce qui va protéger des effets délétères du vieillissement, c'est le niveau d'études. Et maintenant, les personnes de 60 ans, c'est vrai qu'elles ont un niveau d'études un petit peu plus élevé que les personnes que j'ai pu rencontrer il y a entre 25 et 30 ans. Ça fait quand même longtemps. Et ces personnes, il y a 25 ou 30 ans, donc qui ont en gros entre 80 et 90 ans maintenant, quoi, avaient un niveau d'études un petit peu plus faible. moins avaient le niveau bac, par exemple. Maintenant, il y a quand même un plus grand nombre de personnes qui ont fait un nombre d'années d'études plus importantes. Et le fait d'avoir fait plus d'études, eh bien, semble être un facteur qui va préserver, qui va permettre de compenser un petit peu les effets du vieillissement. Parce que effectivement, on a acquis davantage de connaissances, et puis il n'y a pas que les connaissances, il y a aussi le fait qu'on ait peut-être résolu plus de problèmes, qu'on ait utilisé des stratégies, bref, tout ce temps qu'on passe en scolarité semble ensuite modifier le cerveau à tel point que quand on est plus vieux, eh bien on est un petit peu moins sujet à des pertes de mémoire. En tout cas, elles semblent arriver un petit peu plus tard.
Alors, est-ce que si cet effet que vous avez constaté déjà se reproduit de génération en génération, est-ce qu'on peut supposer qu'on va finir par être une espèce hypermnésique, c'est-à-dire qu'on va avoir une et si en plus on a tout le numérique qui est autour, qui est là, tous ces aides mémoire, est-ce qu'on va finir par, ou alors est-ce qu'au contraire, puisqu'il y a ces aides mémoire numériques, ça va s'inverser?
Ouais. Alors c'est très compliqué de répondre exactement, encore une fois, à cette question, parce qu'on n'a pas suffisamment de recul par rapport à tous ces aides-mémoires. D'après un collègue de l'université de Caen qui s'appelle Francis Eustache, pour lui, effectivement, notre mémoire va évoluer du fait qu'on l'utilise différemment grâce ou à cause à tous ces supports numériques. Par exemple, avant, on avait en tête plein de numéros de téléphone. Maintenant, on n'a plus besoin de les avoir. Alors, moi, je suis plutôt peut-être d'une nature optimiste. J'aurais envie de dire, on n'aura pas forcément moins de mémoire. Seulement, on va faire les choses de façon différente. Tout simplement, si on n'a pas notre mémoire utilisée à connaître des numéros de téléphone, on va l'utiliser différemment. C'est difficile d'avoir du recul. Je pense que ce sont vraiment deux problèmes différents. Le fait d'avoir peut-être un cerveau qui s'est un peu développé différemment grâce à ces années d'études, et dire maintenant qu'est-ce que notre mémoire va devenir maintenant qu'on a beaucoup de supports numériques pour nous servir un petit peu de béquille, hein, de mémoire. Je ne pourrais pas dire aujourd'hui comment notre mémoire va évoluer à cause ou grâce à ces supports numériques.
Mais ça veut dire que ça change peut-être aussi le rapport au monde, parce que si on a ces aides-mémoire, qu'est-ce qui va être vraiment vital à retenir? Parce qu'il y a aussi peut-être dans l'idée de la mémoire, on retient des choses soit qui nous ont vraiment marqué, soit qui nous sont utiles au quotidien, que ce soit conscient ou pas. Donc ça veut dire que toutes ces choses qui étaient vitales avant, le numéro de téléphone, l'adresse, le code postal, le machin chose, et toutes ces choses-là, si on n'a plus besoin de faire l'effort de les retenir, même les tables de multiplication, enfin plein de choses, qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Et puis, voilà, qu'est-ce qu'on va...
La mémoire, en tout cas, j'ai pas encore parlé de ça, mais la mémoire, quand on dit j'ai une bonne mémoire, j'ai pas de mémoire, ou j'ai la mémoire qui flanche, ou des choses comme ça, on parle d'un système de mémoire que Tulving, un auteur américain, a appelé la mémoire épisodique. Cette mémoire épisodique, c'est une mémoire à long terme, hein, qui peut nous servir toute notre vie, qui nous permet de rappeler des informations qu'on a acquises il y a 10 ans, il y a 20 ans, en fonction de son âge, bien sûr, et qui va nous permettre de mémoriser pour longtemps des nouvelles informations. Donc cette mémoire épisodique nous sert à retrouver des souvenirs, des événements qui se sont produits dans un contexte spatio-temporel particulier. Par exemple, le jour de mes 20 ans, j'étais à tel endroit avec telle personne, j'ai fait telle et telle chose. Donc c'est un souvenir qu'on appelle contextualisé. Cette mémoire épisodique nous sert aussi à construire notre identité. Je suis la même personne qui parlait avec vous aujourd'hui à Radio Campus le 11 février, le 10 février 2020. Je suis la même personne que la personne qui habitait il y a 40 ans dans un petit village du Cher, etc., etc. Je suis la même personne, même si j'ai bien changé, je suis la même personne. Donc c'est grâce à cette mémoire épisodique qu'on peut aussi construire cette identité. Donc je pense que avec toutes les béquilles numériques, on peut avoir toutes les aides particulières, pour cette construction de l'identité, cette mémoire est nécessaire. Et je pense que dans ce sens-là, elle ne va pas forcément beaucoup évoluer, parce que sauf si on est dans un monde parallèle, on n'a pas quelqu'un d'autre qui nous dit « Attention, tu es la même personne que celle que tu étais il y a 40 ans dans un village au sud de Bourges, etc. etc. » Donc déjà, pour ça, on a besoin de notre mémoire et on a besoin qu'elle fonctionne toujours de la même façon. Cette mémoire nous sert aussi à nous projeter dans l'avenir. Plus ou moins proche, mais il faut que je me souvienne, par exemple, que demain soir, effectivement, je dois faire une conférence pour les mardis de la science à 18h30, salle Sangor, etc. Donc ça, je dois m'en souvenir, c'est ma mémoire. Alors je peux avoir un agenda, bien sûr, c'est marqué aussi dans mon agenda, mais je suis pas tout le temps en train de regarder mon agenda. Il faut pas que je prenne un autre rendez-vous demain soir à 18h et que j'aille faire autre chose ailleurs. Donc cette mémoire m'est quand même utile, même si j'ai des aides numériques, même si j'ai un agenda, même un agenda électronique très sophistiqué, cette mémoire, elle fonctionnera probablement toujours. Alors, je ne sais pas dans 1000 ans comment elle sera, mais on aura besoin toujours de cette mémoire, au moins pour ses fonctions de base, et puis pour les interactions sociales aussi. C'est mieux de se souvenir des personnes qu'on croise, quel type d'interaction on a eu avec pour... continuer à vivre normalement. Cette mémoire nous est vraiment précieuse. Elle peut pas être remplacée par d'autres. Enfin, elle peut pas entièrement être remplacée par d'autres matériels.
Il y a aussi peut-être une question d'autonomie et d'indépendance, parce que plus on délègue de choses à un tiers, que ce soit un objet, une intelligence artificielle ou quelconque, moins on a de prise sur son quotidien, parce que si j'ai, admettons, on voit dans certaines séries, il y a des assistants qui disent « Ah, rappelle-toi que ce soir tu dois, machin, le numéro pour appeler le dentiste, c'est telle chose », plus on... Si l'appareil en question est défaillant, n'existe plus, ça veut dire qu'on est...
Ce qu'on voit déjà dans nos ordinateurs, quand on a des pannes d'ordinateur et qu'on a tout dedans, c'est compliqué. Effectivement, alors moi je pense qu'il faut peut-être rester un petit peu raisonnable si on peut. Je pense que c'est quand même bien qu'on ait tous ces supports et ces aides. Ça facilite vraiment plein de choses au quotidien. En revanche, c'est quand même nécessaire d'avoir une mémoire, et quand on a une bonne mémoire, c'est très utile, et beaucoup se plaignent bien avant les 65 ans d'avoir des trous de mémoire, une perte de mémoire ou la mémoire qui flanche. Donc on voit bien quand même que cette mémoire est vraiment quelque chose d'important pour chacun. J'ai pas encore rencontré tout le monde, mais jusque là personne ne m'a jamais dit je m'en fiche de ma mémoire, j'en ai pas besoin. Tout le monde en a besoin, et je pense que tout le monde y accordera encore de l'importance, même si on bénéficie de beaucoup d'aides techniques.
Bah, je m'en fiche de ma mémoire, à moins que ce soit quelqu'un qui ait vécu un traumatisme, qui auquel cas aimerait s'en débarrasser. Mais sinon...
Non, je pense que chacun trouve ça au contraire très important, la mémoire.
Je propose qu'on fasse une nouvelle pause musicale et on pourra évidemment parler plus en détail après. Laurence Tacona, vous proposez le 11 février une conférence sur maintenir sa mémoire tout au long de sa vie, point d'interrogation. Mais d'ici là, écoutons Anouar Brahem. On va écouter La Passante sur Radio Campus Tour. Thank you. Vous écoutez toujours La Méridienne sur Radio Campus Tours et nous venons d'écouter La Passante de Anouar Brahem. Et je suis toujours avec vous, Laurence Tacona, dans cette Méridienne. Et il est grand temps de parler de cette conférence que vous proposerez dans le cadre des Mardis de la Science proposée par Centre Sciences. Maintenir sa mémoire tout au long de sa vie, point d'interrogation. De quoi il s'agit ?
Alors il s'agira de définir la mémoire. C'est pas forcément une définition simple, hein. Il y a plusieurs systèmes de mémoire qui sont différents, enfin quatre autres systèmes. J'ai parlé du système de mémoire épisodique tout à l'heure, mais il y a d'autres systèmes de mémoire qui fonctionnent un petit peu différemment. Donc je définirai la mémoire et ensuite je vais parler de comment le vieillissement peut affecter le fonctionnement de la mémoire, hein, essentiellement le fonctionnement de la mémoire épisodique. Donc on a bien sûr l'âge, hein, qui peut affecter la mémoire, hein, puisque l'âge va modifier le corps et donc modifie aussi le cerveau qui sous-tend la mémoire. Et par ces modifications cérébrales liées à l'âge, on va avoir donc des modifications dans le fonctionnement de la mémoire. Mais je parlerai aussi de facteurs psychosociaux affectifs, hein, qui peuvent aussi modifier le fonctionnement de la mémoire, essentiellement dans le cadre du vieillissement. Donc j'expliquerai comment ces facteurs davantage, on va dire, sociaux, peuvent modifier les performances en mémoire, en tout cas ponctuellement dans certaines circonstances. Et ensuite je parlerai des facteurs de réserve, c'est-à-dire ces facteurs, hein, qui peuvent faire en sorte que, eh bien, le déclin de la mémoire sera éventuellement moins marqué ou bien arrivera plus tard. Comme j'ai parlé tout à l'heure un tout petit peu de l'activité physique ou de l'école, quoi, de la scolarité.
Alors juste peut-être un exemple de facteurs sociaux.
Alors dans les facteurs sociaux, on peut parler, si je parle du facteur qui va vraiment modifier éventuellement la mémoire, c'est l'anxiété. Et l'anxiété, elle peut être provoquée par certaines situations. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon, en tout cas surtout les psychosociologues, la menace du stéréotype. Donc le stéréotype, hein, c'est la catégorisation, hein, d'un groupe qui fait que on va, pour définir un peu rapidement un groupe, on va donc le définir de façon stéréotypée, c'est-à-dire qu'on va augmenter les ressemblances entre les individus d'un groupe et diminuer les différences entre les individus d'un groupe. C'est comme ça qu'on peut dire, ben, tous les hommes sont comme ça, ou toutes les femmes sont comme ça. Voilà, on va stéréotyper. Et dans certaines situations, on risque d'activer le stéréotype vieillissement. Tous les vieux sont comme ça, tous les vieux sont lents, tous les vieux sont malades, tous les vieux perdent leur mémoire. C'est le cas lorsque, par exemple, on fait passer un test de mémoire à quelqu'un, ou voilà, quelqu'un sent qu'il a un petit peu des problèmes de mémoire et se dit oh, je vais aller consulter à l'hôpital, au CM2R, pour voir si ma mémoire va bien. Ou donc dans cette situation-là, on sait que la mémoire va être testée et qu'on est en plus âgé et qu'on sait qu'un stéréotype du vieillissement, c'est justement les trous de mémoire, on risque d'avoir un petit peu peur de vérifier ce stéréotype en répondant en ayant une mauvaise mémoire. Alors, notre esprit va être occupé à essayer de ne pas valider ce stéréotype. On va se dire, il faut que je fasse attention, il faut vraiment, ils vont penser que j'ai une mauvaise mémoire, alors il faut que je fasse attention, il faut que je fasse comme ci, comme ça. Sauf que pendant qu'on est en train de penser à tout ça, On n'est pas concentré sur la tâche de mémoire. Et donc, on risque finalement de valider le stéréotype et de ne pas être très performant à la mémoire parce qu'on n'aura pas mis toutes ses ressources dans la tâche de mémoire vu qu'une partie de ses ressources aura été occupée à se dire « Oh là là, j'ai une mauvaise mémoire, qu'est-ce qu'il va penser ?» etc. etc. Donc, dans ces situations-là, de menace du stéréotype, eh bien, on peut effectivement avoir des performances en mémoire qui sont inférieures à celle qu'on aurait si on était moins stressé, moins anxieux. C'est, alors, la menace du stéréotype, elle n'a pas été, c'est pas un concept qui a été proposé pour étudier le vieillissement. Au départ, c'était pour étudier beaucoup d'autres choses, mais ça a été adapté au vieillissement et maintenant, il y a quelques études qui montrent effectivement que cette menace du stéréotype peut affecter la mémoire. Et dans notre équipe, avec Badia Bouazaoui, entre autres, on développe ces recherches justement sur l'effet de la menace du stéréotype sur la mémoire.
Et donc c'est-à-dire que cette peur du stéréotype, ça fait est-ce que ça peut faire des faux positifs, en fait, de dire qu'on peut avoir des gens qui présentent des troubles de la mémoire mais qui sont juste induits par l'angoisse.
Oui, c'est ça. Et voilà, peut-être on peut avoir... D'ailleurs, il existe aussi un domaine de recherche qui s'appelle la menace du diagnostic. Donc, c'est la menace du stéréotype un peu poussée, où effectivement, des personnes peuvent, dans une situation d'examen, présenter des performances en mémoire vraiment très très faibles, qui pourraient faire penser à de la pathologie. Or, c'est peut-être faux. Enfin, c'est peut-être pas ça ne reflète peut-être pas les vraies capacités de la personne. Un peu comme un étudiant qui passerait un oral, qui serait très stressé, qui sait son cours, mais qui devant le prof est complètement désarmé et qui n'arrive pas à sortir un mot et qui pourtant répond à la question en sortant de l'examen.
Je sens que parmi nos auditeurs, certains se reconnaissent dans cette situation pénible. En tout cas, merci beaucoup à vous, Laurence Tacona, d'être venue dans la Méridienne. Donc, je rappelle à nouveau que vous êtes professeur des universités au Centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage, le CERCA, à l'Université de Tours. Donc, vous proposerez cette conférence mardi 11 février, 18h30, salle Sangor, rue de la Préfecture. L'entrée est libre, bien sûr, et c'est un événement mardi de la science porté par Centre Sciences. Et si on veut plus d'informations sur le CERCA ou sur le master dont il était question, où est-ce qu'on peut en trouver ?
On peut en trouver, alors même si sur le site de l'université il y avait une petite erreur, le master c'est pas très grave. Le master est bien décrit, les personnes trouveront ça dans les formations proposées à l'université. Et puis pour le CERCA, nous avons un site internet aussi, il suffit de faire CERCA et en général c'est la première page qui est proposée.
Voilà, CERCA, et voilà, on le précise, que CERCA, c'est C-E-R-C-A.
Centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage.
Merci Laurence Tacona.
Merci à vous.